Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à la librairie Mola et merci d'accueillir avec nous Sylvain Tesson qui a eu la gentillesse de venir nous voir. Alors, Sylvain Tesson, donc, vous venez de publier un dernier livre donc, de nouvelles, de 19 nouvelles, qui s'appelle « S'abandonner à vivre ». Il est, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est difficile, voire même très dommage, de résumer votre parcours, étant donné tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vu surtout. Alors un peu en introduction, est-ce que vous pouvez revenir donc, sur toutes ces années, nous expliquer comment vous êtes et pourquoi devenu un écrivain voyageur ?
Comment on devient ce qu'on est ? Oui, je vais essayer. Je suis devenu moi un écrivain voyageur à cause de la géographie. J'ai étudié la géographie au moment de mes études, parce que c'était une science qui me plaisait beaucoup, parce que c'est la moins scientifique de toutes les sciences, c'est la plus littéraire. La géographie, c'est une science qui... Enfin, je sais pas, il y a peut-être des géographes qui seraient très fâchés que je dise ça, mais c'est une science qui convoque un peu toutes les autres sciences, qui emprunte à l'histoire, qui emprunte à la géologie, qui emprunte à l'anthropologie, qui emprunte à la climatologie, pour livrer un regard sur le monde, pour apprendre à déchiffrer le monde et à comprendre l'interface entre le monde et l'homme, et les actions de l'homme sur le monde. Alors le géographe, c'est un observateur d'abord. D'ailleurs, le premier d'entre eux, enfin, qui était à la fois un historien et un géographe et qui s'appelait Hérodote, pour écrire son enquête, il allait interroger sur le port de la ville où il habitait les marins qui revenaient de leur long voyage. Il y a toujours eu une correspondance entre la géographie et le voyage, l'observation du monde. Alors moi, j'ai appris cette science avec des maîtres que j'ai beaucoup aimés, qui étaient des écrivains d'ailleurs, Jean-Pierre Alix, professeur de géographie, Yves Lacoste, qui était ce géopoliticien que vous devez connaître, qui a refondé l'école de géopolitique en injectant la géographie dans le regard géopolitique qu'on porte sur le monde. Et j'ai été tout à fait fasciné par cette science. Mais au bout d'un moment, ça ne me suffisait plus de regarder le monde à travers les cartes et les atlas. Et j'ai fini par aller voir. Alors j'ai multiplié un certain nombre de voyages, bicyclette autour du monde, à pied dans l'Himalaya, à cheval dans les steppes d'Asie centrale, à nouveau à pied et à cheval à travers l'Eurasie, sur les pas des évadés du Goulag, puis en Afghanistan, puis je suis retourné avec une espèce d'obsession dans les territoires de l'Asie centrale et de l'Eurasie. Et j'ai fini par imaginer une vie qui a oscillé sans cesse entre le voyage et l'écriture, l'écriture et le voyage. Je prolongeais mes voyages par l'écriture, je contractais de nouvelles envies de voyage au fur et à mesure que je découvrais de nouveaux endroits. Et puis c'est devenu une existence, voilà comment... Je ne sais pas très bien quoi dire d'autre. Je crois, au fond, si, je vais quand même ajouter une chose, c'est que puisque vous me posez la question sur comment est-ce que je suis devenu écrivain voyageur, je crois que... Là, le mensonge serait de répondre tout petit déjà, je voulais vouer ma vie à l'écriture, au voyage. Vous voyez, quand on entend Henri de Montfred dans les enregistrements de l'INA, qui explique que tout petit déjà, à 12 ans, il rêvait d'être Henri de Montfred et de trafiquer les armes et autres substances à bord de son boutre dans la mer Rouge, je crois qu'il y a pas mal d'impostures, parce qu'une existence est souvent beaucoup plus la proie des hasards et des nécessités et des occasions qu'on saisit et des accidents que l'on réussit à surmonter, plutôt qu'une trajectoire enracinée dans la vocation et l'ambition de l'enfant que nous avons été, et qui ensuite ressemblerait à une longue chaîne de causes et d'effets qui aurait pris racine comme ça dans une volonté. Vous voyez, je ne crois pas du tout à ça. Moi, j'aime beaucoup mieux le mot de Cocteau qui disait « Puisque ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs ». Alors voilà, comment raccorder cette petite digression à la question que vous me posez? Eh bien, je ne sais très bien comment je suis devenu écrivain voyageur. C'est simplement que j'ai eu des occasions de faire de beaux voyages, de les raconter ensuite, et il m'est apparu que c'était une vie plaisante que d'aller chercher sa source d'inspiration dans de longs voyages.
Et y a-t-il un endroit où vous ne soyez pas encore allé ?
Moi, je n'étais jamais venu à Bordeaux.
Ah ben voilà. Alors, donc, vous revenez donc... Vous avez aussi une grande carrière littéraire derrière vous. Vous nous avez surtout raconté je pense, de vos destinations favorites est la Sibérie. Et vous nous avez raconté une fabuleuse histoire dans les forêts sibériennes, justement, qui est dans les forêts de Sibérie, donc qui a reçu le prix Médicis de l'essai. Vous aviez l'air d'avoir trouvé la paix, en fait, en Sibérie, enfin, au moins dans votre cabane. Est-ce que ce n'était pas dur de revenir au monde et à une vie littéraire remplie de fiction avec S'abandonner à vivre ?
La question du retour, pour moi, elle n'est jamais très cuisante, parce que d'abord, je prolonge mes voyages à travers l'écriture. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'un voyage n'est véritablement achevé que quand j'ai mis le point final au texte du récit qui raconte ce voyage. Et puis mes retours sont en général des escales au fond. Je ne fais que passer. Je ne fais que. Vous voyez, c'est comme quand on prend une correspondance sur le quai d'une gare, quoi. Ma vie, c'est une correspondance en fait. Je descends du train, je traverse le quai et puis je prends un autre train. Et pendant le moment où je suis en correspondance, c'est le moment où j'écris à Paris. Mais pour cette raison-là, la vie n'a pas été très compliquée. Non, ce qui a été difficile au fond après cette retraite sibérienne, puisque c'est de ça que vous parlez, j'ai passé 6 mois dans une petite cabane au bord du Baïkal et j'avais au cours de ces 6 mois réussi, je crois, à discipliner ma vie autour de quelques gestes très simples, de quelques pensées très sobres et de quelques préoccupations très limpides. Et quand on rentre d'un voyage comme ça, qui est un séjour plus exactement de simplification de soi-même, et qu'on revient dans la vie parisienne, on a vraiment l'impression de redevenir le petit hamster dans sa roue en plastique qui court désespérément après on ne sait pas trop quoi dans cette vie occidentale, sophistiquée, bombardée d'informations, très remplie. Voilà, c'est vrai que voilà la difficulté qu'il y a eu, c'est de passer de ce séjour d'une vie très vide et donc très remplie de choses essentielles et remplie de contemplation à une vie, à la vie que nous menons lorsque nous sommes urbains. Mais l'écriture est un sas extraordinaire qui permet d'atténuer la morsure du retour.
Et donc vous revenez avec des nouvelles, mais ce n'est pas votre premier livre, votre premier recueil de nouvelles en tout cas, puisque vous aviez écrit aussi Une vie à coucher dehors. Alors, S'abandonner à vivre, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un petit peu le choix de ce titre et ce qu'il signifie ?
D'abord, le problème des recueils de nouvelles, c'est que c'est très compliqué de trouver une bannière commune à toutes ces histoires, puisque le principe d'un recueil de nouvelles, c'est comme quand on frappe la bûche avec le tisonnier, quoi, et on fait jaillir des choses dans tous les sens. Il y a un éclatement, il y a une fragmentation terrible. Un recueil de nouvelles comme cela, comme celui-là, comme celui que j'ai écrit, au fond, met en scène des personnages à qui il arrive des choses très différentes, dans des lieux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec des préoccupations totalement diverses et singulières. Du coup, comment faire pour établir un point commun entre toutes ces nouvelles ? Alors moi, il m'a semblé, en relisant, que finalement, au fond, tous ces personnages, il leur arrivait la même chose, à savoir que leur existence était soudain fracassée par l'imprévu. C'est pas très original, parce que c'est un peu la définition de la vie au fond. Ce que Bergson appelait dans l'énergie spirituelle le perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés, qui est une phrase magnifique pour décrire nos vies qui sont sans cesse interrompues ou empêchées. Et ces gens, les personnages de mes nouvelles, très vite s'aperçoivent que ça ne sert pas à grand chose d'essayer de remonter le cours des choses ou d'essayer d'infléchir le cours du destin. Mes personnages ne sont pas des saumons, vous voyez, qui frayent à contre-courant pour aller pondre des œufs. Mes personnages n'ont aucune envie d'aller pondre des œufs à contre-courant. Ils préfèrent, au fond, se laisser, pas forcément porter, mais accepter que les choses qui adviennent, adviennent. Voilà, ce qui est une philosophie très banale qui a été magnifiquement formulée par les stoïciens, par les taoïstes, d'une certaine manière par les bouddhistes. C'est la philosophie de la résignation. Et cette résignation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle procure une joie. Parce que le fait de ne pas trop attendre du futur, de ne pas trop s'arc-bouter dans la nostalgie, mais de vivre dans l'intervalle du moment qui nous est donné à vivre, ce qui est une pensée tout à fait stoïcienne, magnifiquement formulée par Sénèque, conforte l'âme, renforce l'esprit et donne une certaine forme de joie. Une joie triste, une joie oxymorique, parce que c'est une joie qui recouvre un penchant, une profondeur très mélancolique. Mais les personnages de mes nouvelles sont mélancoliques, ils sont tristes, ils sont pessimistes, parce qu'ils ont tiré de l'observation du monde les justes conclusions. Je ne vois pas très bien comment on peut être optimiste quand on lit la presse le matin. Mais ils corrigent cette tristesse, cette vie, cette existence en mode mineur, comme on dit en musique, par une sorte d'élan vital qui les amène à embrasser la vie comme ça avec un appétit d'ogre. Et cette figure, cette personnalité que je décris, qui est la personnalité des gens coupés en deux, des gens partagés entre ce pessimisme intérieur et cet optimisme comportemental, est une personnalité qui est très courante dans le monde slave. C'est peut-être pour ça que mes pas me ramènent obsessionnellement vers la terre russe que je laboure sans cesse depuis 20 ans. C'est parce que j'aime chez les Slaves rencontrer ce genre d'êtres qui sont des grands forçats d'une joie qu'ils imposent pour masquer un champ de ruines. Voilà, il y a ça chez les Russes, c'est peut-être ce qu'on nomme un peu rapidement l'âme russe. Et les Russes ont un mot d'ailleurs qui n'a pas d'équivalent en français, qui n'a pas de traduction, qui est le poufigisme. Le poufigisme qui vient de la racine de la figue, enfin figou, je m'en fiche en russe. Ça ne vaut pas pour moi plus qu'une figue, c'est fondé sur ce mot-là. Et le poufigisme est une sorte de résignation, de je m'en foutisme, et de je m'en foutisme qui ne nuit pas aux autres. Enfin, moi, il me plaît de penser que le poufigisme de mes personnages, qu'incarnent mes personnages, ne nuit pas aux autres et qu'il est une sorte de comportement, de désinvolture joyeuse, légère et totalement sans illusion face à la vie. Voilà, ça donne des gens qui sont d'ailleurs pas forcément très sympathique, hein, ces gens dont je suis en train de décrire la nature, mais qui au moins ne vous bercent pas de discours illusoires et de promesses et de fausses espérances.
Alors ce profilisme-là, justement, vous l'abordez dans une des nouvelles, donc qui s'appelle Le Train, et c'est assez dur, puisque c'est un homme qui souffre le martyre. Et un personnage qui lui répond « Non mais fais preuve de profligisme. C'est possible même quand physiquement on est en peine. »
Ben, cette histoire-là m'est véritablement arrivée en fait. C'est,
ah bon.
J'en ai conservé d'ailleurs une cicatrice de 15 cm à l'intérieur du poignet. J'étais dans un train en Russie et j'étais très légèrement éméché, comme ça m'arrive parfois. Et il y a eu une bagarre de voyous dans le train et j'ai très vite eu le dessous. Et j'ai été propulsé à travers la fenêtre du train, mais pas à l'extérieur, Dieu merci, car je serais tombé dans la neige en pleine nuit russe, mais dans les carreaux qui séparent les compartiments, et j'ai juste eu le temps de me protéger le visage, et mon poignet a été entaillé par un morceau de verre, et mes veines ont été coupées. Et donc c'est une situation qui était très désagréable, entre Khabarovsk et Vladivostok en pleine nuit, et je suis rentré dans le coupé où j'avais mon lit, et il y avait là une jeune étudiante de Khabarovsk, qui est une ville de l'extrême-orient russe, la ville où Dersouzala finit par être emportée par Vladimir Arseniev dans le film de Kurosawa que vous avez peut-être vu. Voilà pourquoi cette ville de Khabarovsk appartient aujourd'hui au patrimoine culturel mondial. Et cette jeune fille qui s'appelle Olga voit donc arriver à 2h du matin dans son compartiment un monsieur qui est moi-même, puant, sanguinolent, plein de traces de coups, très éméché. Et c'est là où on voit l'admirable courage des femmes russes, d'ailleurs, c'est qu'au lieu de s'inquiéter de prendre ses jambes à son cou, d'appeler le contrôleur, elle m'a soigné. Voilà. Et comme je grimaçais parce que j'avais très mal, elle m'a dit cette phrase « Sois poufigiste, mec ». Et j'ai commencé à m'interroger sur ce terme du poufigisme, et je me suis aperçu qu'il était tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une forme d'acceptation, de résignation joyeuse, de pessimisme, mais corrigé par un sens du pétillement de la vie. Et c'est comme ça, dans ce train-là, au cours d'une histoire qui m'est arrivée vraiment, que j'ai découvert ce terme de poufigisme. Voilà, qui finalement a été marqué dans ma chair d'une certaine manière.
Alors justement, je me demandais si donc il y avait une forme de vécu dans toutes ces nouvelles, comme pour celle du train. Est-ce que c'est le cas pour toutes les nouvelles, ou est-ce qu'il y a vraiment certaines qui sont vraiment sorties tout droit de votre imagination ?
Non, toutes les nouvelles, qu'elles se passent en Afghanistan, en Mongolie, en Russie, en France, dans les pays baltes, elles sont toutes tout de même. Elles sont inspirées par des situations que j'ai pu vivre. Par exemple, dans les nouvelles qui mettent en scène des personnages qui se livrent à l'escalade urbaine, les nouvelles qui mettent en scène des personnages qui se battent en Afghanistan sont inspirées par des voyages que j'ai pu faire là-bas. C'est-à-dire que rien n'est vrai, mais tout est exact, comme disait Boudard quand il écrivait ses articles de presse à l'Hôtel Majestic à Saïgon, et qui n'allait jamais sur la ligne de front. Alors on lui disait, mais en fait, vous faites des papiers pour la presse qui raconte la guerre du Vietnam, mais vous n'allez pas sur le front. Et pourtant, ils faisaient les papiers meilleurs que les journalistes qui, eux, allaient sur le front. Et ils leur répondaient, mais parce que tout est vrai, mais rien n'est exact. Donc oui, c'est le mentir vrai de Breton, je crois, ou d'Aragon, je ne sais plus, enfin d'un des surréalistes qui parle de cette expression, est magnifique, le mentir vrai. C'est-à-dire qu'au fond, je suis inspiré par les décors, je suis inspiré par des situations, par des scènes de la vie courante. À chaque fois que j'ai besoin d'un personnage, il me suffit d'aller puiser en mon magasin de souvenirs, d'autant que je tiens des notes, moi, tous les jours, depuis 20 ans, des notes fébriles. Je raconte toutes mes journées par le menu, donc j'ai ces petits calepins qui me servent de coffre-fort, finalement, de matière romanesque, c'est la seule richesse que j'ai. Et je convoque très souvent mes souvenirs lorsque j'écris de la fiction. En revanche, je me permets tout, puisque, encore une fois, c'est de la littérature d'imagination. Si je peux juste ouvrir une toute petite parenthèse, mais qui répond au fond à votre question... C'est que moi, jusqu'à avant d'écrire des nouvelles assez récemment, j'écrivais des récits de voyage. Et le récit de voyage, on est tenu à dire la vérité. C'est le moins qu'on puisse exiger de celui qui prétend restituer une expérience qu'il a vécue. Le type qui commence à affabuler, c'est un menteur. Ça donne Marco Polo, par exemple, qui voit des chimères et des dragons et des personnages avec des yeux et des cyclopes. Ou ça donne Homère, vous allez me dire, c'est pas mal. Mais enfin, c'est pas des récits de voyage, ce sont ça donne des fables. Et moi, j'écrivais des récits de voyage qui... était au plus près de la réalité, et parfois, hélas, cette réalité manquait d'un tout petit peu de piment. Il aurait fallu un minuscule assaisonnement pour que cette réalité soit un peu moins grise. Et c'est là où l'imagination agit comme le tabasco sur l'endive, elle relève les choses. Je me souviens très bien du jour où j'ai décidé d'écrire des nouvelles, c'était un jour où j'étais dans l'Himalaya, dans le Cachemire indien, j'étais en train de marcher à 2500 mètres d'altitude, et un ours, les ours à collier, qui sont les ours de l'Himalaya, a jailli des forêts. Et j'ai eu un tête-à-tête comme ça avec l'ours. Et puis après, il est reparti. Voilà. Et le soir, j'ai dû écrire cette histoire qui est tout à fait insignifiante, quoi. L'ours est arrivé, on s'est regardé, il est reparti. Et je me suis dit, au fond, c'est dommage, parce que si jamais je pouvais donner libre cours à mon imagination, je pourrais écrire des tas de choses. Je pourrais écrire un personnage qui vient à bout de l'ours, qui le tue, qui le dépèce, qui va offrir sa fourrure à une jeune princesse du Rajasthan qui l'attend nue dans une grotte. Enfin, vous voyez, voilà, la fiction, quoi. Et je suis venu à l'écriture de nouvelles ce jour-là, à cause de cette histoire-là, et parce qu'il m'avait semblé que ce jour-là, la réalité avait manqué un peu de sel et que la vie ne suffisait pas toujours.
Alors, pour en revenir justement au voyage, mais dans S'abandonner à vivre, j'aimerais savoir si c'est une vraie pensée de votre part. Je permets de vous citer. Vous dites donc dans la deuxième nouvelle qui s'appelle Le barrage, il est rare en voyage de vivre des jours conformes aux idées que l'on s'était forgées avant les grands départs. Est-ce que c'est une vraie pensée que vous avez en voyage ou sur le départ, peut-être ?
Oui, j'ajoute d'ailleurs, au fond, voyager, c'est faire voir du pays à sa déception. C'est ça, souvent, le voyage, c'est une désillusion. Car le voyage commence par le rêve, et puis il se prolonge par le souvenir. Et entre les deux, il y a eu le temps du voyage. Voyager, c'est faire de ses rêves des souvenirs. Vivre aussi, d'ailleurs. Et souvent, le voyage, c'est la déception. Mais c'est pas grave, cette déception, est-ce que vous avez retiré du voyage ? Et le voyage est très très peu souvent conforme à ses rêves. D'ailleurs, c'est assez embêtant de trop attendre de son voyage. En général, on est profondément déçu. Je me souviens, moi, d'avoir voyagé à travers les steppes de l'Asie centrale à cheval. J'avais traversé 3000 km avec une jeune fille qui s'appelait Priscilla Telmont et 3 chevaux. Et nous avions dans les sacoches de nos chevaux des livres qui décrivaient quasiment par le menu, quasiment kilomètre après kilomètre, les pays que nous traversions. Des vieilles chroniques du Moyen-Âge, des textes anciens. Et nous étions toujours déçus parce que lorsque vous lisez la description de Samarcande au XIXe siècle et que vous attendez à arriver dans une cité magnifique, brillant de mille feux avec des céramiques bleues et des caravanes de chameaux de Bactriane amenant des tapis de Boukhara au pied des remparts, puis que vous vous retrouvez dans une banlieue industrielle post-soviétique avec des tramways de brinque-ballant et un flic ouzbek qui vous explique qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la ville à cheval, vous apercevez là que votre imagination, votre attente a été bien entendu déçue, elle est venue s'échouer sur les rivages de l'illusion. Alors il ne faut pas trop attendre du voyage, mais pour répondre à votre question, oui, c'est une pensée d'un de mes personnages, mais qui, au fond, est une constatation.
Alors, ce personnage de Marianne, emporte avec elle un livre de Lao Tzu. Est-ce que Lao Tzu, même si vous parlez énormément d'autres auteurs dans le livre, est-ce que Lao Tzu fait partie de ceux que vous avez toujours sur vous ?
C'est-à-dire que moi, la pensée du flux, l'idée du flux, l'idée du flot, l'idée de la circulation des choses, des êtres, des paroles, des pensées, de la vie, de la matière, des atomes, l'idée éventuellement de leur recyclage dans un éternel retour, l'idée du retour de l'histoire, l'idée, enfin toute cette idée qui est l'idée fluctuante de la vie, qui est une idée éminemment taoïste, me plaît beaucoup dans toutes ces manifestations, dans toutes ces formulations, dans toutes ces expressions, dans toutes ces illustrations. Nous avons eu, nous autres Européens, un moment où cette pensée-là a beaucoup inspiré les philosophes, enfin notamment dans la Grèce antique et la Rome antique. Donc oui, Lao Tzu est important pour moi, mais dans cette nouvelle, j'en parle parce que je trouve qu'il a prononcé une phrase qui me semble absolument superbe, qui est une phrase qui probablement explique le déchaînement technique qui a été le grand fait de notre modernité humaine et dont nous payons les conséquences écologiques. C'est une phrase d'ailleurs qui a été souvent prononcée par un... Enfin, c'est une citation de Lao Tzu qui a été parfois utilisée par un bordelais, je crois, qui s'appelle Jacques Ellul, qui était ce philosophe de la technique et puis de l'écologie. Et c'est une phrase de Lao Tzu qui, un jour, donne son enseignement à ses disciples dans son jardin. Et il arrose, comme ça, tout en conversant, tout en philosophant, il arrose chaque plant de son jardin. Alors, il y a le plant de navet, le plant de salsifis et le plant de courgette. Et à un moment, un disciple qui est plus malin que les autres et qui est probablement le démiurge, qui annonce le déchaînement technique, qui serait en France, qui serait dans nos parages Prométhée, mais qui là-bas endosse la figure prométhéenne, dit à Lao Tzu, maître, pourquoi ne creusons-nous pas un petit canal avec notre bêche qui nous permettrait d'arroser plus vite les plants de légumes? Et Lao Tzu prononce cette phrase superbe, il dit, non, car qui sait où cela nous mènerait? Et je trouve cette pensée magnifique, c'est une très belle phrase, et qui c'est, d'ailleurs, nous avons vu où cela nous menait, ça nous a mené au déchaînement technique, à l'arraisonnement, pour parler comme Heidegger, à l'arraisonnement des matières premières, à la mise en demeure de la Terre de nous livrer ses ressources, et c'est dommage que cette phrase, prononcée probablement dans un potager du Yunnan, n'ait pas été mieux écoutée par ensuite les descendants de Lao Tzu, et nous-mêmes d'ailleurs.
Alors, en s'éloignant un petit peu de Lao Tzu, donc vous avez plein d'activités en dehors des voyages, et dont une qui est l'escalade. J'ai appris donc, que vous aviez escaladé Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel et même le premier étage de la Tour Eiffel, si je ne m'abuse. Alors, comment vous en êtes venu à avoir envie d'escalader des monuments? Et surtout, est-ce que vous ne seriez pas un peu fou?
Alors, je vais répondre à la question sur l'escalade. D'abord, l'escalade, moi, me plaît beaucoup parce qu'elle est une danse, parce qu'elle est une gymnastique, parce qu'il y a toute cette histoire de gestuelle, de concentration, d'économie du mouvement, de placement du corps, enfin, pour toutes ces raisons qui sont des raisons, au fond, sportives, physiques, gymniques. Et puis, c'est de la respiration. L'escalade est souvent comparée d'ailleurs à une danse ou à un art martial, puisqu'il y a ces mêmes nécessités, ces impératifs du placement du corps, de l'équilibre. Voilà, avec un petit supplément qui est la mise en danger du corps, notamment lorsque on grimpe sans corde, et par exemple les monuments parisiens. Et puis il y a une autre chose qui me plaît dans l'escalade, qui est une. Alors là, qui est allégoriquement plus philosophique, c'est le fait d'opposer à l'absurdité de la vie que nous évoquions tout à l'heure en parlant notamment du pofiguisme russe, d'opposer une absurdité encore plus grande qui consiste à monter sur des murs pour en redescendre aussitôt qu'atteint le sommet. Il y a une dimension très inconfortable dans l'alpinisme au sens que toute l'énergie très inconfortable intellectuellement, au sens que toute l'énergie d'un corps tout d'un coup est consacrée à l'ascension, toute la compétence est mise au service de cette ascension. Le corps, enfin tout le jeu de la vie et de la mort est joué sur le tapis, et tout ça pour redescendre aussitôt qu'atteint le but. C'est-à-dire qu'il y a dans l'alpinisme comme ça cette espèce de mouvement d'aller-retour, moi, qui me fascine beaucoup et qui me plaît. Et il y a dans l'alpinisme quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon à la vie, puisque quand on décide de grimper, on est mu par sa propre volonté, par son choix, on essaye de frayer un itinéraire sur une paroi, en décidant par où on va passer, mais en même temps on est soumis à des tas de conditions et à des tas de dangers tout à fait objectifs qui sont extérieurs à notre volonté. La chute de pierre, la défaillance de notre compagnon de cordée, l'avalanche, l'éclair, l'orage, le coup de froid, le glissement de terrain, toutes ces choses qui font qu'il y a une part d'acceptation tout à fait nécessaire quand on se livre à ce genre de pratique sportive. Alors maintenant, votre question, c'est pourquoi Paris ? Parce que moi, j'avais 15 ans, j'étais un fou d'alpinisme, d'escalade, mais malheureusement, je vivais à Paris. Or, quand on habite dans le bassin parisien, ben c'est un peu comme à Bordeaux d'ailleurs, on n'y a pas beaucoup de moyens d'exercer sa passion alpinistique. Sauf à considérer que la ville est un massif montagneux, avec ses vallées qui seraient les rues, avec ses parois qui seraient les façades, avec ses plateaux qui seraient les toits, avec ses flèches de granit qui seraient les flèches des églises gothiques. Et puis on s'aperçoit très vite que les architectes, surtout gothiques d'ailleurs, utilisent, comme les guides de haute montagne, tout un vocabulaire, un arsenal sémantique qui est tout à fait proche. On parle de flèches, de clochetons, de piliers, de contreforts, on parle de façades, on parle de parapets, et on en parle pour dans les deux mondes. Alors très vite, avec une petite escouade d'amis, on s'est mis à user de la ville comme d'un champ d'exercice alpin. Et d'ailleurs, on a très très vite, dès les premières sorties, réussi à établir des correspondances de difficultés entre les degrés d'alpinisme et les différents styles architecturaux. Par exemple, le gothique flamboyant s'apparente à de l'escalade du cinquième degré, alors que le gothique, alors que par exemple l'architecture de verre mitterrandienne, je pense à l'Arche de la Défense ou à la Géode ou à la Pyramide du Louvre, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est plutôt du 7e voire du 8e degré. Tandis que l'architecture classique ou romane même est une architecture qui est moins difficile, qui pourrait s'apparenter au 6e degré. Donc vous voyez, il y a toute une manière d'user de la ville de manière alpinistique, et ça nous a beaucoup calmé, ça a calmé nos ardeurs quand nous étions très jeunes et avec cette bande d'amis, et surtout ça nous a permis de patienter le temps d'avoir de quoi s'acheter des billets de train pour aller à Chamonix.
Donc l'escalade, vous en parlez également dans une de vos nouvelles qui s'intitule La Gouttière, on comprend pourquoi. Et comme vous le disiez, le problème dans l'escalade, c'est qu'on peut tomber. Et l'un de ces personnages donc se fait une fracture du calcanéum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement, cette fracture du calcanéum ?
Le calcanéum, on sait tout ce que c'est cet os qui fonde notre bipédie, c'est un os très important. Et la fracture du calcanéum est une pathologie assez courante, on se croit à un congrès de médecine, assez courante chez le grimpeur, notamment lorsqu'il contrôle mal sa chute et qu'il tombe de toute sa force sur cet os qui en général se casse en deux. Et l'Académie de médecine a donné, et c'est tout à fait officiel, a donné une expression, les médecins usent d'une expression très fleurie, très savoureuse pour parler de la fracture du calcanéum, ils appellent ça la fracture des amoureux. Pourquoi ? Parce que il y a le monsieur au lit avec la dame, l'amant, et puis tout d'un coup le mari arrive, si elle met au mari, l'amant saute par la fenêtre pour pas se faire couper la tête, et en général se casse le calcanéum. Et du coup, les médecins, remarquant que souvent, c'était des gens qui venaient d'être pris, si je puis dire, pas la main dans le sac, mais qui venaient d'être pris en faute, ont donné ce nom-là. J'ai trouvé ça merveilleux, j'ai proposé une petite nouvelle, d'ailleurs en m'inspirant beaucoup de souvenirs, notamment d'échapper rapide par les toits parce que la situation était scabreuse, et j'ai parlé de voilà, il y a une chute, mon personnage tombe et le médecin lui apprend que c'est la fracture du calcanéum, sauf que le médecin c'était le mari de la dame et c'était lui qui était préalablement rentré un quart d'heure plus tôt par l'étage d'où l'amant s'était échappé avant de tomber, et c'est ce médecin qui a été appelé au chevet de ce monsieur tombé dans la rue. Voilà, donc c'est une petite pirouette acrobatique d'ailleurs assez qui n'est pas très élaboré, mais qui me permet d'évoquer cette fracture.
Alors, donc, dans cette histoire, qui est aussi une histoire d'amour, l'un de vos personnages donc, utilise un aphorisme. Donc, vous aimez beaucoup les aphorismes, d'ailleurs, vous avez publié deux livres dessus, l'aphorisme sous la lune et là, les aphorismes dans les herbes. Et lui dit « L'amour, c'est se rencontrer, se dissoudre, disparaître. » Est-ce que c'est Est-ce que c'est ça l'amour ou est-ce comme on lui répond, est-ce que c'est juste un aphorisme de paquet de lessive?
Oui, enfin moi pour moi l'amour c'est enfin c'est ouais, je vais pas sombrer dans la noirceur, mais souvenons-nous de ce mot de Théophile Gautier, l'amour, ce sentiment provisoire accompagné de mouvements ridicules. C'est-à-dire que il y a en ce moment un novelliste qui s'appelle Cédric Gras qui vient de publier un livre qui s'appelle Le cœur et les confins et qui est une petite variation autour de ce thème que vous évoquez, le thème de l'absurdité de l'amour, de son caractère éphémère, de sa capacité extraordinaire de dissolution et de dilution. Et moi, je suis très obsédé par cette idée que qu'il y a certains êtres auxquels d'ailleurs j'appartiens qui aussi entre ce désir profond d'une stabilité, d'un ancrage, de la rencontre de l'âme sœur, et puis cette malédiction du mouvement qui est profondément dévastatrice parce qu'elle elle épuise beaucoup, elle esquinte, elle inquiète et surtout elle rend absolument impossible toute espèce de construction, tout en procurant une grande allégresse, puisque cette vie de voyage, cette vie de vagabondage perpétuel est une vie où on ne s'ennuie jamais et où on essaye de vivre de feu d'artifice en feu d'artifice. Voilà, donc l'amour ne peut pas, au fond, être, hélas, une préoccupation majeure de celui qui a décidé de vouer sa vie au voyage. C'était Bruce Chatwin qui expliquait très très bien combien le voyage était une malédiction chez lui et qu'il était obligé de partir à cause d'une force qui l'emportait. Et bien moi, cette force-là, je l'oppose profondément, de manière antipodique, à la force d'amour, qui est une force de descente en soi, de creusement, de recentrage de soi-même, de stabilité, et puis pour finir d'ailleurs peut-être d'immobilité. Alors oui, je crois profondément à l'amour fumé, moi. Je crois que mais de même que je crois que l'espérance, enfin vous connaissez le poème de Saint-Amand, non je ne pense point qu'il y ait de différence à vivre de tabac que vivre d'espérance, car l'un n'est que fumée quand l'autre n'est que vent. Eh bien ça c'est le tabac, l'espoir et l'amour, ce sont de la fumée, mais c'est pas grave. Mais après tout c'est très beau la fumée, ça fait des écrans, ça fait des volutes, ça finit par se dissoudre et puis ça laisse un souvenir dans l'air.
Alors pour en revenir sur l'escalade, même sur le voyage, toutes vos destinations, est-ce que vous avez essayé en fait de, est-ce que c'était des formes de défis que vous essayez d'accomplir, de réaliser? Je pense notamment par exemple à votre livre L'Axe du Loup, où vous aviez reparcouru tout le chemin donc de ce livre de Rawitz de la marche forcée. Je sais aussi que vous aviez refait tout un trajet de la retraite de Russie par Napoléon Ier. Ou comme pour l'escalade, est-ce que à chaque fois, c'est un défi pour vous?
Non, enfin, je suis assez étranger à l'idée du défi, de la performance, de l'exploit, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est toujours plus défiant que soi. Ces voyages-là, pour certains aventuriers ou pour certains alpinistes qui se livrent à de véritables exploits, mais traverser en zigzag de la planète s'apparente pour certains à des pique-niques en Bavière, si vous voulez. On trouve toujours plus radical que soi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je suis étranger à l'idée de performance parce que si j'ai décidé de parfois de me lancer dans ce genre de voyage à cheval pendant 6 mois, à pied pendant 8 mois, à vélo pendant 1 an autour du monde, des choses comme ça, c'est parce que j'avais très très vite, je me suis aperçu qu'il y avait une valeur, mais là j'enfonce des portes ouvertes, enfin c'est ce que je fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, c'est tout à fait banal ce que je vais dire, mais il y a une immense, on retire une très grande impression de densification de l'existence lorsqu'on avance lentement et lorsque l'on conquiert physiquement au prix d'un effort certain, musculaire, chaque kilomètre. Or moi, je crois, un être très géographique, j'aimais l'infini, j'aimais l'espace, j'aimais cette géographie de la désolation, j'aimais me jeter comme à corps perdu, tout droit devant moi, dans les steppes, les plateaux tibétains, les endroits très peu peuplés, sans rencontrer beaucoup de gens, mais en croyant que la rareté des rencontres souvent était une garantie de leur profondeur, de leur valeur et de leur intensité, et j'ai voulu absolument vivre selon ce principe de l'abattage quotidien des kilomètres dans la lenteur. Voilà. Et je me suis aperçu qu'il y avait dans cet exercice, qui est quasiment yogique d'ailleurs, qui consistait à abattre 30, 40, 50 kilomètres tous les jours dans des endroits tout à fait désolés, il y avait quelque chose qui mettait à disposition l'esprit pour la méditation. Chose qui est impossible lorsque l'on est assis dans un fauteuil et où le corps n'a pas sa dose, n'a pas sa ration d'esquintement. Voilà. Et enfin, tout ça est une banalité folle puisque, au fond, quand on cherche un mot, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève et on fait les 100 pas. C'est le principe de thermodynamique. Le principe de thermodynamique dit que deux corps frottés créeront de la chaleur. Eh bien, le principe de thermodynamique appliqué à la pensée, c'est que le corps en mouvement, créant sa propre chaleur à partir de l'effort, fera jaillir des pensées. Et voilà, d'ailleurs, vous souvenez-vous, dans les considérations inactuelles, de l'insulte que Nietzsche jette à la face de Flaubert, une fois que Flaubert, après ses voyages avec Maxime Ducamp, a décidé de s'asseoir dans son fauteuil de Croisset, en mettant la robe de chambre rouge que lui a offert Tourguenieff, et de n'en plus jamais bouger, et Nietzsche écrit dans les considérations inactuelles, « Nihiliste, Flaubert, nihiliste, tu as décidé de passer ta vie à vivre dans un fauteuil. » Voilà, donc il y a dans ces voyages-là, dans cette malédiction du mouvement et dans cette volonté d'aller esquinter son corps sur les pistes, il y a évidemment, enfin je pense, chez beaucoup de voyageurs, la certitude que c'est en vivant ces journées d'épuisement qu'on finit par trouver quelque chose qui peut s'appeler la paix, qui peut s'appeler un état de méditation et qui, moi, dès mes 20 ans, semblait important.
Alors, je ne vous posais pas trop, bien entendu, cette question par hasard. Je pensais notamment donc, à une des nouvelles donc, qui s'appelle les pitons. Ce sont des alpinistes qui gravissent le sommet de l'Atacacor et qui pensent être les premiers à le faire et qui, une fois là-haut, découvrent eh bien, que non, il y a la preuve que quelqu'un est déjà passé avant eux. Donc, ils sont bien entendu déçus, mais alors pourquoi déçus ? Et est-ce qu'il est vraiment important d'être le premier à aller là où nul n'est encore allé ?
Oui, moi je crois, c'est quelque chose qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, puisqu'on prétend que seul le chemin importe davantage que le but, et qu'il y a quelque chose de tout à fait vaniteux et d'orgueilleux à être le premier à poser le drapeau au sommet d'une montagne, par exemple, ou à défricher un parage inconnu. Mais précisément, je viens de prononcer le terme de l'inconnu, et c'est évidemment une tentation, la tentation de l'inconnu, de la virginité des terres. Il se trouve qu'aujourd'hui, un explorateur qui a l'âme aventureuse, le cœur aventureux, et qui a un penchant pour l'exploration, est né trop tard, puisque géographiquement, c'est vrai que la Terre a rendu ses derniers secrets, en tout cas cartographiquement. Il y a encore des tas d'espaces, comme les espaces océaniques, les espaces spéléologiques, souterrains, les espaces sidéraux évidemment, qui appellent à des explorations. Mais pour ce qui est de la surface cartographiée de la Terre, la superficie géographique, il n'y a évidemment plus de continent à découvrir. Alors il reste les montagnes, il reste les parois. Et moi je me souviens très bien un jour d'avoir escaladé une paroi à Socotra, qui est une île au large de la Somalie. Et nous étions avec une petite escouade de grimpeurs et nous ouvrions des voies dans des parois de 300-400 mètres dans cette île. Et un jour, nous sommes arrivés sur une vire, ce qu'on appelle une vire en montagne, qui correspond à une petite banquette naturelle, bien entendu, de roche, au milieu de la paroi, qui était très vertigineuse, qui était même surplombante. Et il y avait ce décrochement, cette vire, avec du sable qui était posé dessus. Et nous sommes arrivés là et nous savions, puisque cette vire, cette banquette de sable était située à 200 mètres du sol, il restait encore 200 mètres de parois surplombantes au-dessus de nous. Donc nous savions que nous étions absolument les premiers à venir là déranger ce tapis de sable. Et il y a quelque chose qui fait qu'on ne met pas la main à l'endroit où personne ne l'a mise exactement que dans un endroit qui a été beaucoup touché. C'est une sorte de petite satisfaction idiote, personnelle, égoïste, égotique, mais après tout, on est ce qu'on peut. Quant à l'histoire que vous avez évoquée, des pitons, au sommet de cette aiguille, l'histoire m'est arrivée. J'étais un jour dans le désert du Hoggar, et je grimpais avec un ami qui s'appelle Daniel Dulac, qui est un champion d'escalade. Nous avons grimper une aiguille à côté de la Garret El Jenoun, une aiguille très difficile, avec une fissure surplombante dans laquelle il était presque impossible de se coincer. Et nous sommes arrivés au sommet, persuadés d'être les premiers. et nous avons trouvé deux pitons. Et après avoir fait des recherches, nous avons compris que ces pitons avaient été plantés en 1966, 40 ans plus tôt, par Pierre Mazeaud, que vous connaissez tous, l'homme politique, le gaulliste, le président du Conseil constitutionnel, président de la Commission des lois, sénateur, premier français à l'Everest, et qui a eu une vie, moi, qui me passionne beaucoup, parce que c'est une vie qui se situe, qui se déploie dans le champ de l'esprit, le champ de l'engagement politique, et également dans le champ physique. C'est-à-dire, ce sont des personnalités telles que le monde anglo-saxon en produit beaucoup. D'ailleurs, des gens qui parfois peuvent être des romanciers, puis en même temps des pêcheurs, comme Hemingway, ou qui peuvent être des bûcherons, et puis en même temps de grands philosophes, comme Jack London. Et les Français rechignent un peu à ce genre de personnalité. On n'aime pas, chez nous autres cartésiens, dualistes, on n'aime pas que les gens s'accomplissent à la fois dans l'ordre de l'action et dans l'ordre de l'esprit. On a toujours l'impression en France que si vous êtes un intellectuel, il faut être légèrement souffreteux et tuberculeux, et en revanche, si vous êtes un athlète, il faut être très légèrement débile. J'ai beaucoup remarqué ça. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être d'une sorte de tentation cartésienne, dualiste en tout cas. Et les anglo-saxons souvent conjuguent les deux ordres. Et Mazeaud est vraiment une figure parfaite de cette espèce de noce menée, célébrée dans une personnalité unique, de noce de l'homme d'action et de l'homme d'esprit. Et donc, nous sommes allés un jour avec les deux pitons à la Fondation de Gaulle, rue de Solferino, devant le Parti Socialiste, la Fondation de Gaulle dont Mazeaud était le président, et nous sommes allés lui rapporter ses pitons. Et je me souviens très bien de son émotion, parce que nous n'avions évidemment pas de rendez-vous, on est arrivé comme ça assez crasseux dans la Fondation, et évidemment l'accueil, la secrétaire ne voulait absolument pas déranger le président Mazeaud pour qu'on lui remette les pitons. Et quand il a su qu'on avait décroché les pitons sur cette aiguille où il était allé grimper en 1966, il a annulé tous ses rendez-vous de l'après-midi, il nous a invités à déjeuner, et il était tout à fait content. Alors voilà, moi je suis parti, vous voyez, on revient à votre première question, cette histoire-là m'a inspiré une nouvelle qui part de ce fait réel, mais qui ensuite va batifoler dans des parages qui sont tout à fait inventés.
Donc, une fois en haut de cette aiguille, vous avez ressenti de la déception, en fait ?
Non, parce que c'était pas, l'enjeu n'était pas non plus important. Mais c'est vrai qu'on est content quand on est le premier à grimper une voie, à passer dans un endroit où personne n'est passé. Et puis en même temps, on est également content de réinscrire, de remettre ses pas dans une... l'alpinisme est une histoire d'héritage. Et c'est vrai que les alpinistes transmettent au fond des voies qu'ils ont inventées, que leur œil a d'abord détecté dans une paroi, puis que leur corps est allé défricher. Et il y a quelque chose de l'ordre de la filiation, de l'héritage, et on est content de remettre ses pas dans les pas de quelqu'un qui vous a précédé et qu'éventuellement on admire. Donc non, on a, si vous voulez, la petite déception qu'on a pu ressentir a été très très vite balayée par la curiosité de savoir qui avait planté ces pitons qui visiblement étaient très anciens puisqu'ils étaient tout rouillés.
Ça n'a rien enlevé à l'exploit non plus de l'avoir grimpé. Vous parlez d'autres personnes d'ailleurs qui ont accompli de grands exploits, notamment de Yuichiro Miura, Loïc Leferme et Lawrence Oates. C'est dans une nouvelle qui s'appelle Les Égards. Est-ce que ces personnages représentent quelque chose d'important pour vous ?
Oui, il représente le détachement, la désinvolture, la folie. Alors, je vais très rapidement éclairer leur destin. L'un qui s'appelait Yuichiro, je ne sais plus comment, je ne me souviens plus de son... Miura est un alpiniste japonais qui, dans les années 70, s'est fait connaître parce qu'en arrivant au sommet de l'Everest, il a descendu tout chousse, comme un samouraï, la face sud de l'Everest avec un parachute et des skis. Il s'est envoyé dans la pente comme ça en disant banzai probablement, et le parachute s'est ouvert et naturellement les skis ont explosé, et lui il a été comme ça ballotté sur le flanc de la montagne. Et il a une phrase superbement héraclitéenne quand il est arrivé en bas, tout le monde le croyait mort, l'équipe de secours est arrivée à son chevet, il avait les jambes brisées, et il a dit: ai-je réussi, ai-je échoué, et après tout qu'importe. C'est tout à fait japonais. Et après une chute de 2 km, c'est tout de même pas mal d'avoir encore cet état état d'esprit et ce sens de, du panache. Et puis l'autre, c'est Loïc Leferme, enfin, que j'appelle Loïc Leplan, puisque encore une fois, tout est vrai, rien n'est exact, ou le contraire, et réciproquement. Et c'est un, je me suis plu à imaginer un plongeur sous-marin qui a plongé dans un lac, un apnéiste, dans un lac en Afghanistan, dans ces lacs qui s'appellent les Bandiamir, et qui sont ce système de lacs d'altitude situés à côté des Bouddhas de Bamiyan que les talibans avaient détruits en 2001. Et il y a tout un système géologique extraordinaire de lacs naturels qui fonctionne comme un déversoir, vous savez, comme ce genre de lac en escalier, dont l'un est le tributaire de l'autre. Et la légende Pashtou veut, ou Hazara d'ailleurs, du centre de l'Afghanistan, veut que ces lacs soient sans fond, qu'ils communiquent avec le centre du monde. C'est souvent d'ailleurs une légende qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Par exemple, au pied du mont Kailash, dans le lac Manasarovar, dont on dit qu'il est un lac sans fond. Et donc là, le début de l'histoire est vrai, ce lac existe, et Loïc est un apnéiste, un champion français, qui était un monsieur que j'aimais beaucoup, qui malheureusement s'est tué en 2008. Et il a plongé, il est venu un jour en Afghanistan, en 2003, et il a plongé dans ce lac pour aller en toucher le fond. Et moi, je m'imagine, je me plais à imaginer dans cette nouvelle qu'il arrive, il touche le fond de ce lac, et que lorsqu'il remonte à la surface, pour ne pas décevoir les Afghans qui sont positionnés autour du lac et qui le contemplent, en train de se livrer à ses exercices d'apnée, j'imagine qu'au moment de remonter à la surface et de crever la surface de l'eau, il est finalement pris d'une fulgurance et il se dit, mais il ne faut pas briser la légende, il ne faut pas déranger les dieux au fond, et il lâche le caillou qui était la preuve que le lac avait bien un fond. Voilà, et puis la troisième histoire est une histoire tout à fait vraie, qui est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Hotz, et qui incarne l'espèce de rigidité flegmatique, mais en même temps extrêmement aristocratique, britannique, puisqu'il faisait partie de l'expédition du général Scott au pôle Sud en 1913, et alors que l'expédition tournait au désastre, et que la petite escouade qui était arrivée au pôle Sud n'arrivait pas assez vite pour échapper à l'hiver et à la faim, et ce monsieur qui était un capitaine de l'armée et qui était en train de ralentir ses amis, a décidé de se sacrifier. Et il a dit, il est parti un matin de la tente en disant « Ne m'attendez pas, je vais être assez long ». Et il est parti mourir pour que ses amis soient sauvés, ce qui n'a pas marché d'ailleurs, puisqu'ils sont eux-mêmes morts. Et alors j'ai rassemblé le souvenir de ces trois personnages, plus ou moins fictifs, pour exprimer l'idée d'un comportement de panache devant la vie. Soit qu'on décide de dévaler une montagne avec un parachute, en se demandant si on a réussi ou pas, soit qu'on ait les égards de ne pas briser la légende, soit qu'on ait le sens de l'autre au point d'en arriver au sacrifice. Voilà, et j'ai composé une petite nouvelle avec une chute qui concerne d'autres personnages, mais qui rassemble, qui ravive la mémoire de ces trois êtres.
Alors, tout au long de... durant tous vos voyages et tous les endroits où vous êtes allés, vous avez dû observer et respecter des coutumes. Il y a notamment, donc, dans une nouvelle qui s'intitule Le Bar, l'un des personnages emprunte... ils sont en train de parler justement de tradition et de l'us et coutume. Et un des personnages emprunte donc une citation, il ne sait plus si c'est du Tché ou de Kropotkin. Il dit « Et c'est ainsi que, s'habituant à l'inhabituel, le peuple finit par accepter l'inacceptable. » Est-ce que vous êtes arrivé de vous retrouver étonné ou pourquoi pas ravi devant certaines traditions ou certaines coutumes?
J'essaie de réfléchir à cette question. Il m'est arrivé de trouver dans des récits historiques de m'émerveiller et en même temps de m'effrayer de la rigidité des traditions et des coutumes, notamment celles qui faisaient du seuil de la yourte un territoire totalement sacré. Au point que si vous le touchiez avec votre botte, on finissait par vous couper la tête, puisque c'est ce seuil, cette planche, cette pièce de bois, cette sorte d'empiècement qui servait à marquer le sol de la yourte était considéré comme tout à fait symbolique du cosmos, quoi. On quittait le monde de la steppe pour entrer dans la yourte. Et donc c'était une pièce aussi sacrée qu'un ostensoir ou qu'un tabernacle, si tant est qu'il le soit encore chez nous. Mais il l'était. Pour les Mongols, cet empiècement était sacré. Et on connaît l'histoire vraie dans une chronique du Moyen-Âge de ce pauvre émissaire du pape qui se rend à la cour du grand Mongol et qui, au moment de rentrer dans la yourte impériale, croyant bien faire, frappe cet empiècement avec sa botte pour ne pas tacher les tapis qui étaient à l'intérieur de la yourte. Et naturellement, on lui a coupé la tête. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne coupe plus la tête, mais on ne respecte plus rien. Mais je me suis amusé à parler de ces coutumes. Alors, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui me plaisent? Oui, par exemple, en Mongolie, je trouve très beau la manière, je trouve que c'est très très beau la manière dont la yourte, étant une représentation cosmique, étant la symbolisation du cosmos, la retranscription en des termes domestiques et architecturaux, puisque c'est de l'architecture, du cosmos, tous les mouvements dans la yourte sont régis par une très vieille tradition. Les places que vous occupez dans la yourte, selon que vous êtes un ancien ou un jeune, un homme ou une femme, un visiteur ou un membre de la famille, eh bien vous circulez dans la yourte selon un ordre. Et tout ça est tout à fait fascinant de voir ça. Et pourquoi est-ce que c'est fascinant? C'est fascinant pour deux raisons. D'abord parce que c'est très beau, ça vient des temps immémoriaux, c'est donc un solfège qui a été régi par des traditions transmises qui correspondent à quelque chose, qui ne sont pas nées au hasard. Et puis deuxièmement, c'est très beau parce que la mondialisation, la globalisation est en train d'éroder le monde. Vous savez, Nicolas Bouvier a écrit L'usage du monde, mais s'il revenait, il pourrait écrire L'usure du monde. Le monde s'use, le monde s'épuise et le monde s'uniformise également. Et les permanences de ce genre de tradition-là, vous parliez de plaisir à les observer, elles procurent du plaisir car elles montrent que la civilisation du même, M-E-M-E, de l'unique, de l'uniforme, de l'unimorphe, n'a pas absolument gagné partout.
Alors donc vous avez forcément rencontré énormément de gens donc dans un domaine un peu moins drôle. Je pense notamment donc à la nouvelle qui s'appelle L'Exil et donc de l'histoire assez émouvante de ce jeune homme qui part avec toutes les économies de sa famille pour passer clandestinement la frontière et pour pouvoir travailler et leur apporter de l'argent. Est-ce que vous-même, ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui avaient ce projet ou cette envie d'aller voir si ailleurs l'herbe est plus verte et s'il était possible d'arranger leur vie?
Cette nouvelle est née d'une rencontre, en fait. J'ai rencontré un clandestin qui m'a raconté son voyage du Niger jusqu'en France. Il a mis 2 ans, puisque les réseaux de passage des clandestins de la zone sahélienne jusqu'à l'espace Schengen parfois se font très rapidement à travers le désert du Sahara avec des passeurs qui roulent en camion, mais parfois se font très lentement parce que les aspirants à l'exil sont obligés de s'arrêter en cours de route pour travailler en Algérie ou au Maroc et pour pouvoir payer la deuxième partie du voyage et notamment la traversée en bateau. Alors moi j'ai documenté en écoutant ce garçon me raconter son histoire et ensuite j'ai imaginé qu'un jour il arrive finalement en France, il trouve du travail, clandestinement donc, et un travail de laveur de carreaux, et qu'un jour il est en train de laver son carreau avec sa raclette, vous savez la raclette en caoutchouc qui permet au laveur de carreaux de laver les carreaux, il découvre la vitrine d'une agence de voyage qui affiche un grand renfort d'enthousiasme publicitaire, une promotion pour aller découvrir la vertu magnifique des peuples du désert et pour se payer des voyages dans ce Niger même que ce jeune garçon avait quitté. Et j'ai eu l'idée de cette nouvelle parce que moi, quand j'ai rencontré ce Nigérien, je venais de faire une conférence sur le désert du Sahara d'où je revenais, et une conférence tout à fait romantique où j'expliquais que c'était merveilleux, le désert, la nudité, les Touaregs, Théodore Monod, Charles de Foucault dans La Sécrème, la nécessité de faire le désert en soi, la tentation de la solitude, enfin, etc., etc., quoi, tout ce bric-à-brac, tout cet exotisme, quoi, qui est la maladie infantile de la géographie. et que j'avais déroulé pendant une heure devant un public avide lui-même de partir au Sahara pour aller éprouver tout ce que le désert pouvait épanouir dans une âme occidentale. Et en fait, tout ça était assez absurde parce que juste après cette conférence, j'ai rencontré ce garçon qui lui venait de ce désert qui n'était pas du tout un paradis mais qui était l'enfer. Et j'ai eu l'idée d'écrire cette nouvelle qui dit au fond une chose, que toutes les représentations, nos paradis sont des enfers, les enfers pour les uns sont des paradis pour les autres. Voilà, c'est une idée qui est très banale, l'idée de la représentation et de la relativité des représentations, mais je l'ai illustré par l'histoire de ce jeune exilé économique.
Alors, sur un ton un peu plus léger, un peu plus peut-être magique.
Oui, c'est vrai que tout ça n'est pas gai, en fait, je m'en rends compte.
On a dû aussi vous raconter beaucoup d'histoires pendant vos voyages,
oui.
beaucoup de folklore.
Oui.
Est-ce que maintenant vous croyez aux contes de fées ?
Ah oui, moi j'ai toujours cru aux fées, j'aime bien les fées. Je crois aux... Enfin, attention, quand je dis les fées, je ne crois pas aux petites nymphettes batifolant sur dans les landes de bruyère de la Bretagne avec des petites ailes dans le dos et des tutus à clochettes. Ça, c'est le bricolage post-romantique de la fée. Non, la fée que j'aime, moi, c'est soit la fée qui a inspiré les romantiques du 19e siècle, les peintres de la fin du 19e, soit la fée comme allégorie c'est-à-dire comme expression d'un principe supérieur, expression d'un principe vivant, expression d'une énergie, de l'énergie de l'évolution, par exemple, dans une manifestation vivante. Une bête, une plante, un arbre. Voilà, j'aime à penser que un champ de fleurs, une prairie, un alpage sont traversés de forces étranges qui nous échappent, sont constitués de structures moléculaires et atomiques immémoriales, et que quelque chose nous échappe. Voilà, et que nous voyons l'arbre, nous voyons les plantes, mais il y a autre chose, il y a le principe du vivant. Quoi. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Il y en a qui l'appellent Dieu, moi je ne l'appelle pas Dieu. J'ai l'idée de me dire qu'il y a dans cette expression vivante, une grande énergie que on pourrait appeler le bios, par exemple, le bios en grec, voilà, le vivant, et c'est ça pour moi les fées, c'est d'avoir au fond un regard féerique sur les choses, de même que Novalis, le romantique allemand, disait qu'il fallait se tenir en perpétuel état de poésie, on pourrait se dire qu'il faut se tenir en éternel état de féerie, ce qui permet également d'injecter un peu de fantaisie dans son existence. Et quand d'ailleurs on a la chair de poule devant un beau visage ou devant ou en écoutant une belle symphonie ou en voyant un beau tableau, Théophile Gautier disait on a l'âme qui nous monte à la peau.
Alors pour revenir un petit peu,
ce qui est plus joli que les chairs de poule, quoi.
Pour revenir un peu sur terre et sur la conception même de s'abandonner à vivre. Comment vous arrivez à trouver l'inspiration? Et donc, vous, dans une des nouvelles, donc, vous parlez de la promenade. Est-ce que la promenade vous permet de trouver l'inspiration pour écrire?
Non, moi je trouve l'inspiration pour mes nouvelles, je construis ma nouvelle, je la construis par la fin, mais comme font beaucoup de novellistes. La nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est une tranche de vie qui en général se termine par une chute, laquelle chute éclaire à rebours le processus narratif qui vous a conduit à cette chute. Alors il y a des écrivains d'ailleurs qui n'utilisent pas qui n'aiment pas la chute, qui trouvent que la chute en général appartient à un arsenal un peu trop facile, un peu trop artificiel, un peu trop bricolé. Au domaine de la pirouette au fond, et que la nouvelle peut se contenter d'être simplement un regard, une photographie, un instantané, une description de quelque chose, l'exposition d'un moment. Moi je ne le crois pas à ça, j'aime l'idée des nouvelles construites et construites par la fin, c'est-à-dire au moment où tout d'un coup la chute vient éclairer à rebours tout ce qui a été dit. Je préfère la nouvelle selon Buzzati par exemple que selon Hemingway. Hemingway était un peintre dont les nouvelles ne sont pas toujours un déroulé narratif qui vient tout d'un coup se fracasser dans une chute, alors que Buzzati, lui, oui. On a vraiment l'impression que Buzzati pensait d'abord à sa chute et ensuite composait sa nouvelle. Alors moi, j'ai toujours une chute qui, en général, me permet de dérouler une petite morale, une morale de fabuliste, hein, pas une morale de moralisateur. Je n'aime pas les moralisateurs, j'aime les moralistes. Les moralistes du XVIIe siècle, par exemple, la Rochefoucauld, Champfort, La Fontaine me plaisent beaucoup, la Bruyère, parce que la morale permet de dire des choses sur la cruauté de la vie, son absurdité, et j'essaye à chaque fois que mes nouvelles disent quelque chose sur ce genre de thématique. Voilà, par exemple, alors vous parliez de l'aphorisme tout à l'heure. C'est vrai que je me plais beaucoup, moi, dans la forme courte. C'est peut-être parce que je suis un agité et parce que ma vie aussi, mon mode de vie ne me permet pas vraiment de m'asseoir pendant 3 ans et demi pour écrire 700 pages d'un long déroulement psychologique entre deux êtres qui se cherchent en s'aimant, sans s'aimer, en se cherchant. Je préfère, moi, tailler dans le gras, user de la littérature comme une technique de photographie des choses. Je me sens plutôt cavalier mongol, vous voyez, qui est en train de faire une razzia dans un jardin potager, plutôt que psychologue qui trempe sa plume dans les tourments très subtils et nuancés des natures humaines. Je ne sais pas faire ça. Alors la nouvelle est un espace dans lequel je me plais bien, ainsi que l'aphorisme. Vous parliez tout à l'heure des aphorismes. Moi, rien ne me plaît plus lorsque je lis un livre, ou lorsque je lis les grands aphoristes du 17e notamment, de trouver une pensée qui m'en dit plus long qu'un long traité de philosophie. Par exemple, lorsque j'entends la Bruyère dans les caractères dire « Rions un peu avant que d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri », ou que le même la Bruyère me dit « L'homme ne fait que 3 choses, il naît, il vit, il meurt, il ne se sent pas naître, il redoute de mourir et il oublie de vivre ». Ça c'est tout à fait glaçant et c'est tellement vrai. Et je cherche les aphorismes. D'ailleurs, j'ai cette maladie qui, paraît-il, est la maladie de l'ancien temps, des vieux messieurs comme ça, très gâteux, qui citaient tout le temps. J'adore citer les choses. C'est que ça se fait plus, puisque citer, c'est célébrer, c'est saluer, c'est reconnaître qu'il y a eu des gens avant vous. Donc tout ça, c'est des gros mots aujourd'hui, puisque nous savons bien que nous sommes des êtres autonomes qui n'avons pas d'héritage. Et il me plaît beaucoup, voilà, de citer les gens et d'imaginer la nouvelle comme un aphorisme un peu développé.
Alors dans toutes ces nouvelles, il y a quand même beaucoup d'humour, bon parfois de l'humour noir, mais est-ce que vous êtes, vous, amusé à les écrire ?
Oh ben oui, moi je m'amuse à écrire, oui, oh là là, je sais pas si on rencontre des écrivains qui vous disent qu'ils s'amusent pas à écrire, je sais pas. Je suis en train de lire le journal merveilleux de Charles Juliette en ce moment qui s'appelle Apaisement, le 7e tome de son journal qui court de l'année 98 à l'année 2003, et il dit des choses tellement belles là-dessus. Il dit j'aime écrire ce journal, j'aime tenir ce journal. Un écrivain qui aime pas écrire, enfin franchement il faut l'arrêter. Il faut lui demander d'arrêter tout de suite. Vous avez déjà rencontré des écrivains qui n'aimaient pas écrire ? Je sais pas, j'ose espérer que non. Ou alors c'est des doloristes, enfin des masos, quoi. Peut-être des écrivains masochistes, ça existe peut-être. Moi, j'aime écrire j'aime par exemple écrire mon journal intime. Je suis comme Charles Juliette, enfin hélas... C'est pas le même. C'est un pauvre petit journal où j'essaye de raconter ce que j'ai vécu pendant la journée. J'aime l'idée de ce rendez-vous. C'est un joli rendez-vous, c'était une discipline. Avant, je tenais mes notes tous les soirs en me forçant, et maintenant c'est devenu un rendez-vous, je ne vais pas dire d'amour, parce que je ne vous pas d'amour pour ma page blanche que je vais noircir du récit de ma journée, mais c'est un véritable rendez-vous d'apaisement, où tout d'un coup l'esprit, le corps, l'âme peut-être, donne rendez-vous pour se souvenir de la journée qui s'est passée. Et d'ailleurs, il y a une vertu du journal intime, qui est que le fait de savoir, l'impératif d'avoir à écrire sa journée, vous oblige finalement à mieux la vivre. Parce que lorsque vous allez avoir votre quart d'heure nécessaire à l'écriture de votre journal, il faut avoir quelque chose à dire. Donc vous allez essayer pendant la journée de mieux écouter ce qui vous a été dit, de mieux formuler ce à quoi vous avez pensé, peut-être de mieux regarder ce que vous avez pu voir. Et c'est très agréable de revivre sa journée par le journal. Donc pour répondre à votre question, oui, heureusement, je crois que je m'amuse à écrire, et même si c'est douloureux.
Et quand, justement, quand est-ce que vous écrivez, en haut d'une façade d'immeuble, sur un cheval?
Non, alors j'écris le soir pour mon journal, et puis sinon, quand je suis en train d'écrire mes récits ou des essais ou mes articles de journaux d'ailleurs, parce que j'en fais beaucoup pour la presse, j'écris le matin, à l'heure limpide. Ces merveilleuses heures du matin, enfin ça tout le monde connaît ces merveilleuses heures, quoi, qui sont les heures de la limpidité de l'esprit, quoi, avant que l'esprit soit... pollué, encombré. C'est pour ça que l'hérésie de la radio, des informations du matin, quoi. C'est la matinale, comme ils disent. Les matinales, c'est la folie. La matinale, ça devrait être le silence. Enfin, moi, je serais directeur de radio, France Culture, par exemple. La matinale sur France Culture, ça serait 4 heures de silence. Et parce que le matin est un trésor absolu. L'esprit se lève. L'éponge a donné la nuit a donné un coup d'éponge sur toutes les forfaitures de la veille. On se lève. On est comme, voilà, on sent l'aube en soi. Et c'est le moment où j'écris. Et puis après, alors après, c'est n'importe quoi. Ensuite, la journée arrive, et les rencontres, le téléphone sonne, on y répond. Et puis on écoute la radio, et puis on apprend les nouvelles, et puis votre tête finit par prendre non pas les dimensions de l'univers, comme dit Giono à la fin de, du Roi sans divertissement, mais par ressembler au foutoir du monde.
Alors, je vais faire quelque chose qui, normalement, on fait dès le départ, mais... Donc là, je voulais voir avec vous votre quatrième de couverture, donc qui dit « Devant les coups du sort, il n'y a pas 30 choix possibles. Soit on lutte, on se démène et l'on fait comme les guêpes dans un verre de vin. Soit on s'abandonne à vivre. C'est le choix des héros de ces nouvelles. Ils sont marins, amants, guerriers, artistes, pervers ou voyageurs. Ils vivent à Paris, Zermatt ou Riga, en Afghanistan, en Yakoutie ou au Sahara. Et ils auraient mieux fait de rester au lit. Est-ce que demain, vous allez vous lever ?»
Oui, oui, je vais me lever demain.
Et est-ce qu'il faut se lever ?
Mais c'est la phrase de Pascal dans la pensée 52, je crois. Enfin, je ne me souviens plus. Mais enfin, voilà, tous les malheurs de l'homme naissent du fait qu'il est incapable de rester dans sa chambre. Mais moi, je crois beaucoup à l'idée de l'oscillation. Je crois que nous autres, les êtres humains, nous sommes perclus de contradictions et nous sommes tiraillés quoi, en permanence entre le désir de rester dans notre chambre et le désir de partir, le désir d'aimer et le désir de voyager, le désir de repos et puis le désir de conquête. Enfin, voilà, c'est une... Vous savez, c'est comme nous sommes plusieurs, c'est comme le schizophrène qui dit « je ne suis pas schizophrène, mais moi si ». J'aime bien l'idée des êtres qui sont coupés en deux, qui sont tiraillés. Alors, au fond, celui qui a le mieux parlé de ce tiraillement dans l'homme, c'est Héraclite dans les fragments, quoi, avec l'énergie, la beauté vient de la conjonction des contraires. Voilà, pensée d'Héraclite. Il l'avait développé de manière plus hermétique en disant... En faisant un jeu de mots d'ailleurs, le premier calembour de l'histoire, le nom de l'arc est la vie et son œuvre est la mort. Alors l'arc en grec ça se dit bios et la vie ça se dit bios, il y a juste un accent qui change. Donc le nom de l'arc est la vie, puisque l'arc c'est le bios et la vie c'est le bios, le nom de l'arc est la vie. Or qu'est-ce que c'est qu'un arc ? C'est un instrument dont l'énergie de la tension vient du fait que lorsque vous bandez la corde, vous rapprochez les deux extrémités de l'arc, donc vous conjuguez les contraires et vous créez une énergie. Et son œuvre est la mort, puisque lorsque vous lâchez l'arc, la corde, la flèche part et atteint sa cible. C'est une pensée somptueuse, c'est une pensée de la sur la conjonction des contradictions, la conjonction des contraires. Et je crois qu'il y a, oui, en moi-même, puisque vous me posez la question, une part de moi qui voudrait rester au lit et qui sait bien que Pascal a raison, mais hélas, il y a une autre part qui appartient davantage au désir d'aller voir le monde. Et peut-être que la sagesse, c'est quand on a fait la paix entre ces deux parts-là, ou lorsqu'on a réussi à les conjuguer. Ou c'est peut-être le gâtisme aussi.
C'est vrai. Et donc, est-ce que vous pensez que vous arrivez à vous abandonner à vivre ?
Oui, je crois que d'une certaine manière, j'ai réussi à faire une chose en voyageant beaucoup et qui est à ne plus espérer rien. Mais rien. Je tiens l'espoir pour une extraordinaire imposture, quoi. Enfin, pour l'illusion absolue. Je crois que l'espoir est une insulte au moment présent, le fait d'espérer quelque chose. Alors pour peu qu'on ne souffre pas, bien sûr, parce que lorsque l'on souffre, on espère que ça s'arrêtera. Mais quand on ne souffre pas, l'espoir me semble une insulte absolue au moment présent. Et qu'est-ce que c'est que l'espoir ? C'est l'idée que, évidemment, demain ça ira mieux. C'est comme lorsque les gens répondent au téléphone. Alors le téléphone sonne, donc on interrompt la conversation qu'on est en train de mener avec un interlocuteur et on répond parce qu'on espère que la conversation sera plus intéressante. Ben voilà, l'espoir c'est répondre au téléphone. Et bien moi je réponds pas au téléphone, d'ailleurs j'ai pas de téléphone, je déteste le téléphone et je ne réponds pas quand on m'appelle. Je suis pas un chien, je suis pas un laquais, je suis pas un valet. Quand on fait drelin, je ne réponds pas parce que je n'ai pas d'espoir. De même, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas du tout optimiste parce que je tiens, comme Ambrose Bierce dans le dictionnaire du diable, je tiens que l'optimisme est la doctrine des gens qui s'acharnent à voir le noir en blanc. C'est une formule assez savoureuse qui exprime bien cette espèce de nécessité comme ça tout à fait brûlante chez certains êtres bizarres de vouloir toujours que les choses aillent mieux au lieu de se contenter de regarder comme elles sont et d'essayer de peut-être de s'en accommoder. Pourquoi pas les changer dans la sphère extérieure extrêmement proche de son périmètre privé. Mais je n'aime pas, moi, les grands discours sur le changement du monde, sur la révolution, par exemple, que je tiens pour un changement de propriétaire, pour les grandes discussions sur les lendemains qui chantent, les promesses, les illusions, les espérances. Tout ça me fascine assez. À chaque fois que j'entends le mot espoir, je me souviens de cette blague qui faisait hurler de rire les Moujiks sous Brejnev dans l'Union soviétique. Vous avez le pessimiste qui dit « Mon Dieu, tout ça est affreux, ça ne peut pas être pire. » Et puis l'optimiste arrive et dit « Mais si !» Voilà.
Et donc maintenant, dernière question, quels sont vos projets ?
Écoutez, là, j'ai eu l'occasion de faire un très beau voyage il y a 2 mois, où je suis parti faire la traversée de l'Atlantique à la voile, dans le sillage d'une course au large qui s'appelle la Mini Transat, qui, nous sommes partis d'Espagne jusqu'aux Antilles sur des voiliers. Alors les coureurs, les concurrents sont des marins très chevronnés qui font cette course sur un tout petit bateau de 6,50 m, large comme cette pièce. Et nous étions 5 à bord, d'abord d'un bateau accompagnateur, un bateau d'assistance, un voilier. Et nous avons navigué pendant 2 mois de l'Espagne jusqu'aux Antilles en passant par les Açores, par les Canaries. Et j'ai été très inspiré, moi, par cette navigation. Je ne connaissais pas du tout la mer. Et j'ai écrit là-dessus, je suis en train de préparer un texte. Donc pour l'instant, mon projet est un projet d'écriture. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que ce bateau s'appelait l'Imaginaire. Et c'est un très joli nom. Et nous étions donc chargés de porter secours aux concurrents à qui il arrivait de démater ou de casser leur gouvernail ou d'être pris dans la tempête ou d'avoir une panne de je sais pas quoi ou de casser leur voile, de les déchirer. Et du coup, nous avions une radio de bord. Et un jour, on a eu une grosse tempête au large des côtes du Finistère espagnol, 57 nœuds de vent. Et des marins ont cassé les gouvernails et nous ont appelés à la rescousse. Et nous étions dans la nuit, dans les vagues, avec la lune, ce vent terrible, ces coups ces chocs de la coque contre la mer, enfin toutes choses que les marins connaissent ici, et nous entendions crépiter la petite radio de bord et les appels au secours des marins dans la nuit, et qui disaient cette chose tellement belle, parce que on se serait cru dans une nouvelle de Borges, allô, allô l'imaginaire, allô l'imaginaire, nous recevez-vous, au secours l'imaginaire. Et quand on a entendu ça, au secours l'imaginaire, bah, c'est tellement magnifique qu'on peut couler, quoi. Voilà. Donc je raconte tout ça en ce moment.
Ben merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci
J'espère
beaucoup.
J'espère que vous reviendrez nous voir en tout cas.